difficile à digérer, et c'est une parmi tant d'autres que j'ai vécue, pas cette année-ci, mais il y a déjà quelques années, voire quelques décennies. On accueille Louis, voilà, c'est une histoire qui est vraie, à l'exception des prénoms que j'inventerai. Salut Louis, tu vas bien ? Oui, hein ? Et une conversation s'engage pour l'accueillir, d'où il vient, je vois qu'il a grandi, qu'il s'est fortifié. Ah, vraiment une conversation encourageante. J'apprends qu'il est passé par les eaux du baptême, oh, ça réjouit mon cœur. Et puis, je dis, tiens, je vais faire appel à Marco, qui est justement ton animateur, celui qui est responsable de ta chambre. Je vais l'appeler pour qu'il t'accompagne et t'aider à t'installer. Et Marco, tu veux venir ? Et voilà Marco, je lui dis, tiens, prends la valise de Louis et va dans la chambre 4 pour l'installer. Et voilà Louis qui parle, on accueille d'autres personnes, d'autres enfants. Et voilà que je dis à Anne, assise à côté de moi, tiens, c'est bizarre, ça fait déjà au moins une demi-heure que Marco est parti, qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'on est dans la chambre des garçons, je vais aller voir ce qui se passe. Reste là, continue à faire l'accueil, les inscriptions. Je rentre dans la chambre et je vois Marco comme ça, en face de la valise. Je dis, Marco, t'es malade? Non. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas ce que je dois faire. Ben, ouvre déjà la valise. Il ouvre la valise. Et, ah non, c'était dans l'autre sens. Ah, je me suis trompé. Voilà. Et je lui dis, ben, tu vois, il y a des slips, il y a des cinglés, il y a des costumes, des petits anoraks. Tu les installes. Et puis, un quart d'heure après, je reviens dans la chambre. Je dis, eh Marco, t'as... Non, je ne vois pas ce que je dois faire. Hein? Mais tu rassembles les cinglés sur une étagère, les chaussettes ensemble. Hein, je ne vois pas. Ok. Pourtant, c'est un excellent animateur, ce Marco. Hein, mais il ne voyait pas. Et dès lors, la question que je me pose, que je nous pose, quand j'ouvre la parole de Dieu, elle est une valise, hein, qui contient tous les ingrédients nécessaires pour me vêtir, pour me laver, pour voilà, tout ce dont j'ai besoin pour ma vie spirituelle, mais aussi pour des actions visibles dans le monde, tout est contenu dans cette parole, comme une valise que je peux emporter. Est-ce que je vois clair de cette parole ? Est-ce que je peux la comprendre ? Évidemment, si la Bible reste sur ma table fermée, il est évident que je ne vais pas la comprendre. Il m'est donc demandé au moins de l'ouvrir et de la lire, de la comprendre. Évidemment, pour cela, je dois vous avouer que les années venant, voilà, comme chacun d'entre vous, on a le calendrier. Donc je me pose la question, en lisant ce calendrier, est-ce que je me limite à lire ce calendrier ou est-ce que j'ouvre la Bible pour vérifier que le texte qui est marqué est bien dans la Bible ? Un peu comme les Béréens, rappelez-vous, on en a parlé, hein, qui vérifiaient. Est-ce que je me contente de lire le commentaire qui est approprié, qui est bien pour mon âme ? Est-ce qu'au-delà de ce commentaire, je commence à m'asseoir et à méditer sur ce commentaire pour faire mien ce que l'auteur en a dit. Et même aller plus loin, pour ma foi, pour mon âme. Bien sûr, je sais qu'ici, on offre des commentaires où, en 4 ans, on lit la Bible. Hein, soyez rassurés, je suis abonné. Hein, voilà, avant, c'était le guide, les pieds, tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis, bien sûr, j'ai besoin aussi, pour moi, d'un dictionnaire. Parce qu'il y a des mots que je ne comprends pas. Donc, j'ai besoin d'un dictionnaire Larousse, Petit Robert, pour dire, tiens, ce mot-là veut dire cela. Ainsi, il y a une dizaine d'années, à force d'entendre « Dieu a tant aimé le monde » qui est le résumé de tout l'évangile, du projet de Dieu qui veut que tous les hommes soient vivants et n'aillent pas dans l'enfer, Dieu me dit, en lisant ce texte, car, je me dis, allez, j'ai jamais vu ce petit mot car. Pourquoi qu'il est mis, qu'on ne le parle jamais? Et puis je vais dans le dictionnaire et je vois car, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus, mais ça, c'est un petit mot qui démontre ce qui est dit avant peut se réaliser. C'est la preuve. Et dès lors, ma curiosité me pousse à lire le contexte de ce Jean 3,16. Et dès lors, de découvrir que la vie que Dieu me promet en Jésus-Christ est possible car Dieu a tant aimé le monde. Ainsi donc, je ne néglige pas, quand j'ouvre la Bible, de mettre à côté de moi un dictionnaire, Larousse, Petit Robert. Voilà, j'ai aussi, avec l'âge, acquis un autre dictionnaire qui est le dictionnaire biblique. Voilà, j'ai besoin de cela aussi. Et puis, voilà, j'ai aussi à ma disposition une carte pour situer les lieux où les villes qui sont écrites se trouvent. Voilà, j'ai une carte. Heureusement, allez, soyons honnêtes, aujourd'hui, dans la plupart des Bibles, j'ai un dictionnaire biblique, j'ai aussi, au début ou à la fin, je vais dire, une carte de géographie des différentes périodes de l'histoire racontées dans cette Bible. Je prends aussi avec moi un petit cahier pour écrire les pensées que Dieu verserait dans mes pensées me concernant ses projets. Et puis, bien sûr, je m'associe plusieurs versions de Bible, parce que vous savez que la Bible a été écrite d'une part en hébreu, en grec, certains mots sont en araméen, et parfois c'est comme quand on traduit de l'anglais vers le français, on hésite entre plusieurs mots qui veulent dire la même chose, mais bon, évidemment, si je prends cette Bible-ci, hein, c'est tellement petit que j'ai besoin, à mon âge, de me prendre une loupe. Hein, oui, et en cela, j'avoue que je deviens aveugle. Et j'ai besoin de dire au Seigneur, mais ouvre mes yeux, non pas les yeux visibles, mais les yeux de mon cœur, pour que je contemple les merveilles que tu as placées pour moi dans cette parole. Et puis, bon, j'ai avec moi tout un ensemble, comme les enfants, hein, un ensemble de bics de couleurs, parce que j'aime bien dans ma Bible, voilà, surligner toutes les pages. Le rouge, quand on me parle de l'amour de Dieu. L'orange, quand il est question de l'amour que je dois porter pour mon Dieu. Le vert, allez, vert espérance. Voilà. Le jaune, quand tu parles de la gloire de Dieu. Ainsi donc, dans ma Bible, il y a constamment avec des stabilocoques, c'est surligné. Ce matin, je voudrais m'adresser à des jeunes dans la foi et leur parler comment, chez soi, on peut découvrir les merveilles de Dieu. Donc, je ne vais pas parler de la haute théologie, hein, mais simplement des choses concrètes. Je bénis le Seigneur pour ces lieux comme les camps de vacances où la parole de Dieu est prêchée. Je bénis ce lieu que nous sommes, où nous sommes rassemblés ce matin, où la prédication est proclamée, où nous avons pu ensemble chanter, louer, adorer Dieu et partager les symboles de son amour pour nous. Lorsque Jésus a mis le comble à son amour, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie. Et Jésus l'a fait pour des ennemis. Tout cela est marqué dans ce livre. Mais peut-être que nous sommes arrivés comme un homme qui est raconté dans le livre des Actes des Apôtres. Un homme pourtant érudit, un premier ministre de la reine de Candace, qui revient d'une fête juive et qui est là dans le désert et qui est en train de lire une portion de la Bible de l'époque, le prophète Ésaïe. Et il lit. Et il y a un évangéliste, Philippe, qui vient à sa rencontre, poussé par le Seigneur. Tu comprends ce que tu lis? Non. Et il lui expliqua, et c'est résumé en un mot, il lui expliqua Jésus. Alors ce matin, je vais vous expliquer Jésus dans la Bible. Je vais me remettre là, hein. Parce que je vois que certains haussent la tête et vous pourrez enfin voir mes bretelles. Je voudrais nous encourager réciproquement à avoir des moments intimes avec notre Dieu. Lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous lisons le calendrier, lorsque nous lisons des commentaires bibliques, il est évident que nous lisons, nous entendons la même parole de Dieu, celle-ci, la Bible. Quelle est donc la différence qui peut exister entre une prédication entendue, un commentaire entendu, et mon face-à-face avec Dieu? Pour l'instant, je suis en train de vous dispenser ce que Dieu m'a communiqué. Et je l'ai prémâché pour vous. C'est peut-être du petit lait. Pour certains, ça va être de la viande. Quelque chose de plus consistant. Mais j'ai la ferme conviction, c'est ma pensée à moi, que dans ce face-à-face, privé, dans mon domicile, dans ma chambre, ayant fermé la porte, et où j'ouvre la parole de Dieu, je m'efforce à méditer, à ruminer cette parole, à la proclamer même à haute voix, au travers d'un chant, au travers de la prière, au travers d'une relecture, de m'attarder sur un mot, etc. C'est Dieu qui me parle. Et dans l'effort de comprendre, aidé par lui, cette parole divine, je passe d'une nourriture liquide à une nourriture solide. Je passe du lait que je dispense maintenant à de la viande, que je dispense. Mais dans mon intimité avec Dieu, il y a cet effort que je dois produire pour que je puisse méditer, réfléchir et comprendre. Pour l'instant, c'est une nourriture prémâchée. Quand je lis le calendrier, c'est du prémâché. Et je vous invite à prolonger ce que vous avez lu, à prolonger ce que nous allons partager ce matin pour que cette nourriture devienne vôtre. Et plutôt que du pré-mâché, qu'elle devienne, suite à votre réflexion, quelque chose que vous aurez mâché vous-même, du solide. Peu importe la hauteur théologique on s'en fout. J'entends vos échos en disant « Oui, mais quand j'ouvre la Bible, je ne comprends rien. » Alors, si cela peut vous rassurer, moi non plus. Je ne comprends pas tout de ce que la Bible me dit. Et heureusement qu'à mon âge, et à l'âge de plusieurs, et je bénis Ernest qui est un pilier dans l'Église, quand, du haut de ses 10 années, il ose dire « Je n'ai pas compris ce texte. » Quelle humilité. Et quand je m'approche de Dieu pour l'écouter, je dois avoir cette humilité devant lui. Je ne comprends pas tout de ce qu'il me dit. Mais de ce qu'il me dit, j'en suis satisfait. Parce que c'est pour ma foi, c'est pour que je grandisse avec lui. Quelle catastrophe, bien-aimé, si à un certain âge, Dieu s'arrêtait de me parler, de se dévoiler. Oh, je connais tout de lui. J'ai plus besoin d'ouvrir la Bible. Mais quelle catastrophe! Je cours vers la pauvreté spirituelle. Je cours pour être loin de lui. Je cours pour une vie qui n'est plus sanctifiée, mise à part pour lui. Alors mon désir ce matin, c'est de nous encourager et de mettre quelques pas que moi je pratique à chacun de nous, de vous, de réfléchir à des pas qu'il souhaiterait appliquer dans sa vie. Le psaume 119, je le lis, il reviendra tantôt, verset 17. Quand j'ouvre cette parole, écoutez ce que David dit. Fais du bien, mon Dieu, à ton serviteur, pour que je vive, pour que j'observe ta parole, que je la mette en pratique. Ouvre mes yeux sur les merveilles que contient ta parole et que je suis en train de contempler. Je suis au Dieu, psaume 119, verset 19, je suis au Dieu comme un étranger sur la terre. Ne me cache pas ta parole. Bien-aimé, quand je m'approche de cette parole, il y a des choses que je ne comprends pas encore. Est-ce pour autant que je dois les bannir de ma lecture? Non. Au moment voulu, Dieu se révélera. Révélera sa pensée au travers du texte qui est pour moi maintenant incompris. Quand je m'approche de la parole de Dieu, j'observe avec humilité la prière que Dieu adressait pour ses disciples. Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses de ta parole aux intelligents de ce monde, à ceux qui viennent avec leur propre sagesse. Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les révèles à ceux qui sont comme des petits-enfants. Quand je m'approche, je viens devant Dieu avec humilité. Je vous propose 4 étapes que je place dans ma vie, dans mon culte personnel. Et comme je le dis, libre à chacun de trouver ses marques. Quand je suis face au texte biblique, je me pose 4 questions. 1. Qu'est-ce que Dieu dit? Autrement dit, par des petites questions, où est-ce que ça se passe? Qui intervient? Quels sont les personnages? Quand est-ce que ça se passe? Avec qui? Avec quoi? qu'est-ce qui est dit, quelles sont les paroles, quels sont les gestes, les objets. Voilà, je relève tout cela lors de ma lecture. Et cela me permet de mémoriser à la fois le texte et l'histoire. C'est bien de mémoriser, hein? Ensuite, la deuxième question, qui parfois s'entremêle avec la première, au fur et à mesure qu'on prend une certaine habitude, qu'est-ce que je comprends dans ce texte pour ma vie personnelle? Comment ramener cette histoire dans ma vie? Y aurait-il un enseignement caché dans cette histoire pour moi et qui réclame dès lors d'être ruminé, qui réclame d'être mâché, qui réclame d'être sondé? Et puis la troisième question, qui n'est pas des moindres, si j'ai été interpellé par cette parole divine, c'est de savoir quel est mon premier pas d'obéissance. Ne pas seulement écouter, ne pas seulement comprendre, ça meuble ma tête, mais quand cette parole descend dans mon cœur, Seigneur, que je pratique cette parole. Et cela, ça fait appel à ma conscience, à mon cœur. Seigneur, tu m'interpelles pour corriger le tir dans ma vie. Je veux obéir. Et puis la quatrième question, quand est-ce que je commence? Parfois on calcule, parfois on raisonne. Et on dit, ah Seigneur, bon, je commencerai demain. Mais demain, ce sera aujourd'hui pour demain. Et ce sera toujours demain. Et on ne joue pas avec Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et avant de commencer, je me place avec humilité devant Dieu. Et c'est là où je voudrais que nous prions ensemble. Le premier chant que j'avais proposé à l'équipe de louange, ouvre Seigneur les yeux de mon cœur. On va le chanter, Jean-François, il est là, et puis nous allons lire un texte de la parole de Dieu, libre à nous de trouver, de répondre à cette toute petite question, où, quand, comment, pour digérer cette parole, pour la ruminer, voilà. On va se lever peut-être, hein, parce qu'on se place devant Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de la parole, et on veut qu'elle soit digérée en nous. Seigneur Jésus, telle est l'attitude que nous prenons devant toi. Parle, Seigneur. Nous sommes là, nous qui voulons te servir, prêts à t'écouter. Nous prenons conscience que toi, tu es saint. Nous prenons conscience que nous sommes des pauvres, sauvés par grâce. Mais dans ce combat spirituel entre la chair et le Saint-Esprit, nous prenons conscience que tes pensées sont bien infiniment plus élevées que nos propres pensées. Alors, comment comprendre tes paroles et ton désir pour nos vies, sinon que te demander, Seigneur, viens à notre secours, renouvelle notre intelligence, ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie comme toi. Je te le demande, pour chacun de nous, et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous gardons quatre questions, mais on va prendre les deux premières questions et essayer peut-être de les imbriquer les unes dans les autres. Qu'est-ce que Dieu dit où, quand, comment, qui est là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Des choses simples. Et au fil du temps, peut-être que vous allez vous arrêter là. Et c'est déjà bien pour mémoriser cette parole de vie. Et puis, au fur et à mesure, cela va revenir dans vos pensées. Vous allez la ruminer, vous allez la méditer. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit viendra à votre aide pour comprendre cette parole de vie. Alors, nous allons ouvrir dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Et plutôt que de m'arrêter sur chacun des mots, je vais souligner par une voix un peu plus haute certains mots. Quoiqu'il faudrait tous les souligner, puisque tous vont me parler. L'évangile de Marc, au chapitre 10. Donc l'évangile de Marc, c'est le deuxième livre du Nouveau Testament. Chapitre 10, ça veut dire que c'est le premier chiffre que je vois après le nom de l'évangéliste. Et verset dans ce chiffre 10 qui est mis généralement en gros caractère, je recherche un verset qui est le verset 46. Comme Maggie me faisait remarquer où on lisait l'évangile de Jean, elle était dans 1 Jean. Jean chapitre 1er, elle était dans 1 Jean la pauvre. Elle me dit, je n'ai pas ce qu'on lit. Non, mais c'est pour dire que c'est parfois compliqué pour retrouver les références. Et nous avons besoin de nous mettre à la hauteur de ces bien-aimés dont le désir c'est d'avoir leurs yeux ouverts à ce que le Seigneur proclame. Marc chapitre 10 et au verset 46. Et au fil de la lecture, réfléchissez à cette petite question. Où, quand, les villes, les personnes qui interviennent, etc., qu'est-ce qu'ils font ? Ils, au pluriel, arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville de Jéricho, avec ses disciples, et aussi une grande foule, Bartimée était, lui, assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs, je ne sais pas, sans doute les disciples ou la foule, plusieurs le reprenaient pour lui dire, « Tais-toi !» Mais lui, il cria encore davantage, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Et Bartimée de dire Rabouni, ce qui veut dire en français maître. Mais mon désir, c'est que tu m'ouvres les yeux. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quel disciple ! Un disciple aveugle, un disciple qui voit maintenant parce que Jésus a opéré ce miracle dans la vie. Une foule est là. Si on va dans le contexte de ce chapitre, parce que, comme nous l'avons dit, il faut parfois aller quelques versets au préalable pour essayer de découvrir. Je suis interpellé par une grande foule, une assez grande foule, suivait Jésus avec ses disciples. qui font partie de cette foule. Alors, j'ai relevé pour vous que Jésus part de la Galilée, où il a fait des miracles, et qu'en chemin, il arrive à Jéricho, dans la Judée, et là, au fil de son chemin, des foules, une foule, le suit. D'où vient-elle? Ben, il faut lire les versets qui précèdent. Je sais que Jésus a guéri. Je sais que Jésus a accosté des parents avec leurs enfants. Jésus les a mis ses enfants sur ses genoux. Il les a bénis. Il leur a imposé les mains. Je sais, par le contexte, qu'il y a au moins une personne qui ne fait pas partie de la foule. Et vous savez, l'histoire du jeune homme riche. Dans ce chemin, Jésus rencontre le jeune homme riche, qui vient avec des bonnes intentions. Que veut, Père, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, arrête d'être religieux. Et crois en moi, crois en Dieu. Mais moi, je fais ça, je fais. Ah oui, vends tout ce que tu as et puis viens, suis-moi. Et déjà là, on pourrait s'interroger, qu'est-ce qui m'empêche de suivre Jésus? Mais tel n'est pas notre sujet. Et il nous est dit de ces jeunes hommes riches, il s'en alla tout triste. Donc voilà déjà quelqu'un qui ne fait pas partie de cette grande foule. Évidemment, il ne sait pas ce qu'il rate, le pauvre. La bénédiction d'en haut. Et puis, tout en chemin, Jésus parle de son arrestation, de sa mort, de sa résurrection. Et dans ce contexte un peu sombre, voilà que deux disciples, les fils de Zébédée, Jean et Jacques, ils ont entendu que Jésus parle de sa mort, de sa résurrection. Et voilà que ces deux fils disent, Seigneur, mais quand tu vas venir dans ta gloire, est-ce que moi je ne peux pas être assis à ta droite et l'autre à ta gauche? Et cela a amené de l'indignation au sein de ce cortège, au sein des disciples. Et j'ai été voir dans le dictionnaire, parce que qui connaît le mot indignation? Être indigné, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'étais voir dans le dictionnaire Larousse, hein, et puis voilà ce que j'ai noté. Oh là, je dois m'arrêter, c'est déjà tout. Ben oui. Voilà. J'arrive à la conclusion. Hein. Voilà. L'indignation, c'est un sentiment qui frôle la colère lorsqu'on est dans une situation d'injustice. Et on peut comprendre que ses disciples soient dans l'injustice. Et c'est alors qu'ils arrivent, la foule, les disciples et Jésus arrivent à Jéricho. Et c'est en sortant de Jéricho qu'il y a un homme là, aveugle, que la foule essaie de faire taire. Son nom, c'est Bartimée. Je vais dans le dictionnaire qui se trouve dans ma Bible, ou bien dans le dictionnaire biblique, et je vois Bartimée, fils de Timée. Bar, fils, Timée. Et je vois la traduction française du mot Timée, et c'est homme honorable. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être vu de tout le monde. Quelle ironie du sort, vous ne croyez pas? Le fils d'un homme honorable qui se trouve assis, lui qui devait être haut et levé pour être vu, se trouve aveugle et en train de mendier. Quelle ironie! Et la foule le fait taire. Et pourtant, cet aveugle est en train de crier à Jésus sa détresse. Il mendie auprès de la foule, mais dans l'instant que nous lisons, il mendie la miséricorde de Dieu. Aie pitié de moi. Je termine en soulignant les deux villes. Et puis nous prolongeons sans doute par un autre volet, une autre occasion. Il est question ici de Jéricho. Et la foule et Jésus qui partent vers Jérusalem. Alors pour ceux qui ont été en Israël, et ce n'est pas mon cas, mais par le dictionnaire, par Internet aussi, hein, vous pouvez y aller. Hein. J'ai regardé quelle était l'altitude de Jéricho. Et je suis étonné que c'est à moins 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Que Jérusalem est à plus 790 mètres, 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Que la mer dite morte, tellement elle est salée, 20% de sel, il n'y a rien qui y vit. Quand on y va, quand on ne sait pas nager, on flotte tout seul, se trouve à moins, combien j'ai noté ici, moins 400 et quelques mètres, hein, la mer morte. Et on comprend que Jésus est en train, avec cette foule et avec ses disciples, de passer par Jéricho à moins 250 mètres et de monter vers Jérusalem. Un haut lieu. Et si vous regardez dans ma Bible, comme dans la plupart des vôtres, à côté du mot Jéricho, on vous renvoie vers d'autres références où se trouve la même ville. Et j'ai retenu pour vous deux références, alors qu'il y en a beaucoup. La première, c'est lorsque le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué, successeur de Moïse, qui n'est pas rentré dans le pays promis, veut rentrer avec Josué dans le pays promis. Quelle est la première ville qu'il rencontre ? Jéricho, qui s'élève contre Dieu. Une ville qui ne veut pas que l'on gagne, que l'on attrape, que l'on vive les promesses de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi une histoire qui est racontée. Un homme qui descendait, lui, de Jérusalem à Jéricho. Et là, il traverse des zones sombres, de sorte que des malfaiteurs lui ravissent ses biens, le maltraitent, au point qu'il est laissé à demi-mort. Sans doute était-il encore avec une vie physique à moitié chétive, mais voilà, joué de coups, il était là. Mais il était mort spirituellement. Puisque Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Jéricho, c'est l'éloignement de Dieu. Et cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et Jésus fait le contraire avec ses disciples. Il va de Jéricho à Jérusalem. Je termine en posant la question. Suite simplement à avoir posé une question de lecture silencieuse qui était le point noir quand j'étais à l'école primaire, hein. Quand l'instituteur me disait « Ah, on fait une lecture silencieuse, aïe, 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 aïe. » Et voilà que je reviens avec cette lecture silencieuse devant Dieu. Deux villes, Jéricho, Jérusalem. Et je termine en disant « Où suis-je assis ?» À Jéricho ou à Jérusalem ? Suis-je assis loin de Dieu ? Dans le monde de Jéricho, ou est-ce que ma vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu? Est-ce que par la foi, je suis déjà assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, dans le ciel, en attendant de fouler dans la réalité des choses? Où suis-je assis? Heureux l'homme, dit David au psaume premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas à Jéricho au banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir en la parole de Dieu et qui la médite, qui la rumine, qui la mâche jour et nuit. Alors, pour ceux-là, ils seront comme un arbre planté près d'un courant d'eau, où le feuillage ne se flétrit pas. Quel miracle dans ma vie! Et peut-être que le deuxième volet, on continuera ainsi à aborder ces différentes questions, à ruminer ce texte. Et peut-être d'emblée, pour vous, il y a un seul objet qui est mentionné dans cette parabole, dans cette histoire, pardon, pas parabole, dans cette histoire, un vêtement. Alors, réfléchissez, qu'est-ce que le mendiant en a fait? Et posons-nous la question, qu'est-ce qui me revêt? Est-ce que c'est de l'ordre de l'apparence? Ou c'est le manteau de justice de Jésus-Christ? Quelques pistes. Faut-il attendre d'être aveugle physiquement pour que cette parole, cette histoire devienne réalité dans ma vie? Sachez que Dieu fait des miracles. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, oui, tu fais le miracle pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et je vous invite à chanter le deuxième cantique que j'avais proposé au groupe de louanges, qui s'appelle « Un merveilleux miracle, un si grand miracle ». Et vous verrez qu'il est marqué « Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. » Telle est la situation de Bartimée, le vêtement de la condamnation. Et maintenant, revêtu de la justice de Jésus-Christ, revêtu du manteau du salut, revêtu du manteau de la joie, de la paix, de la vie. C'est Jésus-Christ qui est vu au travers de Bartimée lorsque le miracle de Dieu s'opère dans une vie. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous.